France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Isabelle Aboulker, dont la nouvelle œuvre intitulée Archipel sera jouée à l'Opéra Comique à partir du 25 avril. Depuis de nombreuses années, Isabelle Aboulker nous enchante d'une création à l'autre par son amour des voix, ses contes musicaux et autres oratorios dans la lignée de Ravel ou Poulenc. Nous évoquerons son grand-père, le compositeur Henri Février, mais aussi les chanteurs qu'elle a accompagnés comme Janine Michaud, avant de se révéler comme une grande compositrice. Isabelle Aboulker est à mes côtés en ce matin printanier qui m'a donné envie de ressortir cette jolie chanson de Jean Tranchant.
Claire, voici venir l'été, les parfums de la terre sont pleins de volupté, la chambre est trop petite pour notre grand amour. Allons-nous-en bien vite, il paraît qu'alentour, chérie, les jardins nous attendent, car ils ont besoin d'amourer, que feraient les pauvres rosiers. Ils n'entendaient plus nos baisers. Les fleurs sans qu'on leur demande ont des parterres merveilleux.
Et dans mes bras tu es
heureux. Les oiseaux sont jaloux, mais ils chantent pour nous. Et pendant la semaine, vous tous qui m'écoutez, redonnez ma rengaine sans plus impatienter, car viendront les dimanches, le ciel sur le beau temps. Nous irons sous les branches, murmurer tendrement. Chérie, les jardins nous attendent, car ils ont besoin d'amoureux. Les pauvres rosiers, ils n'entendaient plus nos baisers.
Et dans mes bras tu es
heureux. Les oiseaux sont jaloux. Mais il chante pour nous.
Et voilà comment on orchestrait les chansons autrefois. C'était Jean Tranchant avec l'orchestre de Pierre Chagnon en 1941. Cette année-là, mon invité était vraiment une toute petite fille. Je ne pense pas qu'elle savait déjà qu'elle deviendrait musicienne, encore que sa famille l'y prédisposé probablement un peu. Je suis ravi donc d'accueillir Isabelle Aboulker.
Thank you.
Nous allons vous conter et vous chanter cette histoire, Isabelle Aboulker. C'est ainsi que commence Douce et Barbe Bleue, une de vos œuvres. Et c'est vrai que c'est ce que vous faites souvent, tout simplement, j'ai envie de dire, dans beaucoup de vos œuvres. Nous allons vous raconter et vous chanter une histoire. C'est un peu l'objet de très nombreuses créations depuis plusieurs années, tout simplement, j'ai envie de dire.
C'est vrai, mais là je dois vraiment, je ne peux pas écouter Douce et Barbe Bleue sans penser avec beaucoup de tristesse à Tony Ramone, qui était le directeur de la maîtrise de Radio France, oui, et qui m'avait fait l'honneur de me commander cet ouvrage et qui est mort prématurément, vraiment de façon assez tragique, car il était très malade et il ne s'est pas soigné. Et Douce et Barbe Bleue porte sa marque, car Karine, oui, Mavis savait...
Alors, d'après Perrault, hein, il faut préciser. Ah, hein, voilà.
Bien entendu, voilà. D'après Perrault, aménagé avec une fin un peu romantique.
Mais vous aimez bien aller puiser dans la littérature,
voilà,
en tout cas,
j'ai
des sujets.
J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire cet ouvrage. Et c'est un des ouvrages que j'ai écrit qui a une seconde vie, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir quelques ouvrages qui sont...
Qui sont repris continuellement.
Non, il ne faut pas exagérer. C'est pas encore. c'est pas encore l'aventure de Babar ou Pierre et le Loup. Non, pas du tout. Mais disons qu'il y a deux ou trois ouvrages qui sont reconnus comme étant intéressants à chanter pour les enfants.
Vous dites souvent, Isabelle Aboulker, on y reviendra, mais que au fond vous aimez écrire pour la voix. Et principalement pour la voix, on peut dire que, après tout,
hein,
Chopin a écrit une œuvre immense en se contentant d'un piano, et
voilà,
on peut se contenter des voix comme compositrice pour toute une vie.
Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Et puis, il faut surtout savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire.
Oui.
Et ce que je sais faire, je crois, c'est prendre un texte que j'aime et, oui, le mettre en musique, que ce soit pour des toutes petites voix, puisque depuis peu je travaille pour des enfants des
beaucoup
maternelles
pour des
avec
maîtrises,
beaucoup de voix.
Ah, même plus petit que ça, oui.
Plus petit que petit, et puis pour aussi des belles voix, comme ces élèves magnifiques qui ont fait une carrière quand j'étais professeur de formation musicale, chanteur. Ouais. La voix est vraiment le compagnon de ma vie en tant que musicienne.
Et elle l'est évidemment une nouvelle fois donc dans l'actualité, puisque vous serez sur la scène de l'Opéra Comique du 25 avril au 3 mai avec une nouvelle création, Archipel, sur un livret de l'écrivain, du jeune écrivain Adrien Born, et avec encore une maîtrise d'enfants qui joue et chante tous les rôles, si on peut dire, sur scène. Hein.
Une maîtrise totalement exceptionnelle, qui est dans des mains exceptionnelles aussi de Sarah Connet, qui est leur chef de chœur, et qui ont une chance inouïe, car ils font du théâtre, ils font de la danse. Ils sont très, très, très performants, et j'ai vraiment beaucoup de joie. J'ai eu beaucoup de joie à écrire pour eux.
Vous l'avez écrit avec eux, pour eux, ensemble, d'une certaine façon. Il y a eu un échange dans l'écriture.
L'échange a été surtout avec Adrien Born, que je ne connaissais
l'auteur,
pas, qui est donc l'auteur, voilà, du livret, et qui a eu l'intelligence, alors qu'il n'avait pas de passé de librettiste. Il y a très très peu d'écrivains sachant être librettiste. C'est très particulier, un livret d'opéra.
Oui.
Il n'en avait pas fait, et il l'a fait de très belle façon. C'est lui qui a beaucoup travaillé
avec
les enfants.
Voilà, en tout cas, une œuvre.
Ce ne sont pas des enfants, excusez-moi. Il y a enfants et adolescents et jeunes adultes.
On va en reparler de cette création. Donc, à partir du 25 avril, vous êtes sur les charbons ardents, là.
Ah oui, vraiment, c'est la dernière ligne droite.
Mais on va revenir aussi un petit peu, Isabelle Aboulker, sur votre vie musicale riche et étonnante. Où, tiens, la voix, justement, voilà une voix qui était très à la mode autrefois. Et voilà un petit air de virtuosité composé par un certain Henri Février.
Voici des gens, les hirondelles.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un morceau de virtuosité, un morceau spectaculaire. C'est Emma de Robin, je le dis pour les amateurs. Vous connaissiez
Isabelle Laboulquière? Écoutez, malheureusement...
Vous qui avez travaillé beaucoup avec les chanteurs.
Oui. Non, mais je suis éberluée, époustouflée, parce qu'elle garde en effet cette clarté.
Un contre-quoi, vous m'avez dit?
Un contre-contre-sol. Hein, c'est surprenant. Magnifique. Et ce qui... Un des regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir... pu avoir un contact avec mon grand-père.
Qui a composé cette mélodie parmi beaucoup d'autres œuvres.
Et si vous voulez, ça me fait plaisir aussi d'entendre, parce qu'il a fait de grands opéras, très proches de Lalo. Moi, je trouve que c'était assez proche.
On va en écouter une page, d'ailleurs.
Vraiment, un grand compositeur d'opéra qui a un peu souffert, un peu comme moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de ses lettres, de sa correspondance. Il a souffert d'être trop tonal, d'être dans la lignée de Massenet, alors que Debussy arrivait. Et ça l'a cassé. Hein.
Il faut dire que votre grand-père, donc Henri Février, qui a quand même laissé un nom et une œuvre, au moins Monavana, qui a été jouée dans le monde entier.
Absolument. Hein,
il était lui-même fils d'un architecte.
Jules Février,
qui était un grand ami d'André Messager.
Absolument. On raconte même des histoires. L'amitié avec la femme. Enfin bon, des choses familiales très drôles. Très étonnante, parce que pourquoi est-ce que Henri Février venait d'une famille qui n'était absolument pas musicienne?
Non, mais artiste quand même.
Oui, grand architecte. Voilà. Et alors j'ai une photo de mon arrière-grand-père qui était très impressionnant, et Henri Février, son fils, avait très très peur de son papa.
Ah oui, et votre grand-père, donc Henri Février, auteur de quelques opéras célèbres au début du siècle, décalé, comme vous l'avez dit, un peu du mouvement musical, vous l'avez connu peu donc.
Mais hélas, il était malade, il était déjà bien âgé, mais avec cette vilaine maladie que touche parfois l'âge, et que j'ai la chance de ne...
Et alors, parmi ses enfants, donc, il y avait votre mère, puis il y avait le frère de votre mère, le grand pianiste Jacques Février, grand ami de Poulenc également. Donc là, vous étiez vraiment
au cœur du monde musical. Parce que autant j'avais d'admiration pour Jacques Février, autant il pensait que j'étais un petit peu pas très douée, quoi.
Ah bon?
Il a été très sévère envers moi.
Il vous a pas poussé du tout, encouragé?
Pas du tout. J'ai des souvenirs, parce que c'était un homme, comment dirais-je, à cette époque-là, on se permettait d'être quand même avec les élèves assez violents, ça c'est fini. J'allais une fois par an lui jouer ma petite sonate de Mozart, il me terrorisait.
Ah oui, donc, mais malgré tout, ce climat musical vous pensez, influencé dans le fait d'être devenue musicienne ou...
Benoît, si je suis honnête, c'est mon père, Marcel Laboulquière, la famille de juifs pieds noirs, puisque je suis... juif pied noir
par votre père,
par mon père, et un petit peu bourgeoise par ma mère.
Ouais. Mais alors votre père, parlons-en aussi, parce que Marcel Laboulquière, c'est un homme passionnant, qui a été polytechnicien, qui est devenu cinéaste, qui a fait des films à succès après la guerre, comme Les Pieds Nickelés, etc.
Voilà.
Et alors avec lui, par contre, il y a une relation beaucoup plus fusionnelle.
Oui, c'est une histoire un peu douloureuse, bien sûr, puisqu'ils ont divorcé. J'ai donc vécu avec mon père, que j'adorais, que j'admirais. Et en plus, il avait de l'humour, il avait une distance extraordinaire avec les événements. Il nous avait fait baptiser, puisque je suis née en 38, et mon père, évidemment, pied noir, est juif, et il a eu l'intelligence en 38 de nous ramener, mais il nous l'avait fait baptiser, et il a admis très bien que je fasse ma première communion, en me disant, Isabelle, va faire tes dévotions. Il était un homme très étonnant.
Voilà, et il vous a davantage influencé.
Oui, et influencé, je vais vous dire, sur l'amour qu'il avait de la poésie, de la littérature, et une sorte de distance qui faisait des alexandrins quand j'allais à l'école. Enfin, c'est un homme qui m'a évidemment beaucoup influencé par sa générosité.
Au point que vous auriez pensé peut-être, d'ailleurs on y reviendra, à vos débuts devenir compositrice pour le cinéma.
C'était ça. C'était évidemment ça. Je pensais faire de la musique puisque papa avait été cinéaste.
Alors, avant d'en revenir à vous, bien sûr, Isabelle Laboulquière, on va écouter un autre extrait. Alors, effectivement, beaucoup plus... grande musique, si j'ose dire, d'une œuvre d'Henri Février. Là, c'est Monavana, son œuvre la plus célèbre.
Et
un air chanté par Fernand Anceau.
Oh, j'aurais mieux aimé que l'amour l'eût conquise. Mais qu'importe après tout. Mais qu'importe, oh qu'importe, elle est à moi, Vanna. respiro la vie. Je m'enivre un instant d'une illusion trop douce. J'en étreins la tiède fraîcheur. Je la prends, je l'étends. Je l'étends, je la ferme. Comme si elle allait me répondre dans la langue secrète et magique des amants. Et je la couvre de baisers sans que tu la retires. De baiser, elle est de moi, Vanna, elle est de moi, Vanna, je la tiens dans les miennes, j'en respire la vie.
Fernand Anceau qui chantait un des airs de Mona Vanna d'Henri Février, une œuvre de 1909 créée à l'Opéra de Paris et qu'on jouait encore un petit peu après la Seconde Guerre puisque vous l'avez vu enfant.
Oui, enfant, oui, ça devait
Boulkier,
être dans ses...
de votre grand-père.
Oui, je suis né en 38 et je devais avoir
une dizaine d'années.
48, oui, ça peut être 10 voilà. ans, 9, 10 ans, j'étais, nous étions dans la loge.
En tout cas, j'attire l'attention. D'ailleurs, Hervé Niquet avec Véronique Jean a enregistré récemment des extraits de Gismonda, une autre œuvre
de mon grand-père qui avait été soldat pendant la guerre de 14, a fait de très belles mélodies autour de la guerre, des chansons, de la veuve, et qu'a enregistré Françoise Massé avec beaucoup de talent.
Ah, voilà. En tout cas, voilà, bah, c'était votre grand-père, Isabelle
Mon grand-père, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration, vraiment. Et il a subi des les critiques ont été très sévères envers lui. J'en relisais récemment dans Musica, on le prenait un peu de haut.
Un peu de haut. Mais en tout cas, voilà, un musicien à redécouvrir. Vous-même, vous avez donc, on peut dire, même fait vos débuts musicaux quand même dans vos années en Algérie. Vous êtes monté sur scène déjà. Vous étiez un enfant prodige.
Oh là là, mon Dieu.
Pas du tout.
Non. J'ai dû jouer une petite sonatine. Enfant prodige, non. Non, mon mari l'a été. Mon mari Edmond Rosenfeld a été un enfant prodige et un merveilleux concertiste, mais pas moi.
Alors, votre mari, Edmond Rosenfeld, est grand pianiste que vous avez rencontré un peu plus tard, puisque après Alger, vous êtes revenu donc à Paris.
Oui.
Et vous êtes entré au conservatoire pour faire vos études de musique. Donc, c'était décidé quand même. Vous vouliez être musicienne. Alors,
écoutez, c'est un parcours un peu compliqué. Ouais. Disons qu'à la mort de mon père, moi qui étudiais le piano avec un professeur à la maison, un peu de façon un peu amateur, mais tout en étant une folle de musique très, 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 très tôt, folle de piano. J'adorais le piano. Ouais. Je reste une amoureuse de piano. Quand je vois un piano quelque part, j'ai l'impression que c'est un ami qui m'attend.
Un piano, une voix, et vous
un
êtes
piano,
contente.
Même
voilà.
Celui-là même est magnifique voix. Dans votre studio, mais même un vilain piano. J'aime le piano.
En tout cas, vous êtes entré au conservatoire et votre mari, lui, était en train de faire son apprentissage.
Notre rencontre au conservatoire est assez drôle. Voilà. Je suis entré au conservatoire à 15 ans. Oui. Je venais de perdre mon père en classe de solfège. Solfège non instrumentiste, tandis que mon mari était, lui, en tant qu'instrumentiste. Et nous nous sommes rencontrés dans la classe de Madame Duru, qui était un merveilleux prof de solfège.
Vous êtes mariée très jeune, finalement.
Oh, très jeune.
Voilà.
Et nous sommes toujours mariés.
Et
vous rendez compte.
Et vous arrive de jouer
quelle fidélité.
Il vous arrive de jouer du piano à quatre mains.
Nous avons fait de jolis concerts à quatre mains.
Des jolis concerts
la fantaisie de Schubert.
Alors, donc, vous voilà donc au conservatoire, comme élève, et puis plus tard, on va le voir comme professeur et accompagnateur également. Mais donc, Isabelle Aboulker, est-ce que vous vous rappelez, quand est-ce que vous avez composé de la musique pour la première fois ?
Je vais vous dire, j'avais quelque chose qui m'était sans doute qui venait de grand-père, une sorte de naturel pour improviser, pour entendre et pour harmoniser. Ah, et oui. C'est donc j'ai commencé à gribouiller des petites chansons.
Très vite quoi.
Très
tout le temps.
13, 14, 15. Et puis après, j'ai eu envie de faire des chansons pour mes enfants, puisque je me suis mariée tôt et que David est né en... J'avais 22 ans. J'ai fait
mais la classe de composition vous a pas
attiré ? Oh là là, attendez Benoît, non. Il faut quand même remettre les choses dans leur à leur place. Mon problème était que j'étais donc douée, disons-le, naturellement, oui. Improvisant, harmonisant. Et là-dessus... Je rentre après ma médaille de solfège et après avoir eu me marier très tôt, etc., etc. Je rentre en classe d'harmonie chez Monsieur Duruflé, Maurice Duruflé, grand musicien.
Oui.
Et je peux dire avec un des regrets qu'il est, je suis passée à côté de lui, mais il est passé à côté de moi aussi parce que moi je suis arrivée en classe d'harmonie déjà une personne qui était harmoniste dans l'âme. Or, savez-vous, et vous le savez bien, vous qui êtes si musicien, que quand on est élève dans ces classes d'écriture, eh bien, le piano n'est pas du tout un ami. On le ferme, on met un scotch. Et quand on passe les examens avec un scotch et qu'on est comme moi, on devient nul. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais donc dans sa classe et au bout d'un an, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mes devoirs étaient très mauvais. Et j'avais une amie, Monique
Alors
Sécony.
Alors que vous aviez un grand sens de
l'harmonie. Non, Monique Sécony, qui était prix de Rome, ma meilleure amie, disait, maître, elle a fait des quintes. Maître, elle a fait des octaves. Au bout d'un an, j'ai dit, je suis pas à ma place. J'ai démissionné avec un second accessible d'harmonie. Honte sur moi.
Eh ben, c'est drôle d'en parler comme ça, en tout cas Isabelle Aboulker. Alors, on va revenir sur tout cet itinéraire, mais parmi vos œuvres, disons, importantes, les plus anciennes, et il y a un auteur qui est revenu souvent, c'est Jean de La Fontaine. Il est apparu assez tôt dans votre vie de compositrice.
Écoutez, hein. Oui, il est apparu tôt. Je reviens à mon père, papa avait une passion pour La Fontaine.
Et alors, on va écouter tout de suite une de ses œuvres d'après La Fontaine. Il y en a beaucoup. Hein. Vous avez écrit des fables,
oh,
un spectacle,
je crois
etc.
que j'en suis presque à 30.
À 30. La jeune veuve par Isabelle Philippe, ça vous va?
Ah, Isabelle Philippe est une de mes élèves que j'ai le plus aimée et admirée.
France Musique. Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre.
Aussitôt, à cloître, à cloître, à cloître, à cloître, et les plus défunt, ton chéri. Mais comme il ne parlait de rien à notre belle, où donc est le jeune mari que vous m'aviez promis?
La jeune veuve, c'était Isabelle Philippe avec au piano Olivier Doria, une œuvre de mon invité Isabelle Aboulker, qui dès 1977 écrivait son premier opéra pour jeune public. Ça s'appelait justement Jean de La Fontaine parmi nous.
Absolument, une commande des jeunesses musicales de France.
Des jeunesses musicales de France, très importantes à l'époque. Et donc, voilà, c'est donc avec ce cher La Fontaine que vous avez mis le pied à l'étrier.
Absolument,
et que vous continuez
absolument
aujourd'hui à nous enchanter. On va revenir à vos œuvres, évidemment, inspirées de la littérature et à la création prochaine de l'opéra comique. Mais je reviens un petit peu à ces années conservatoires. Donc, après la classe de Maurice Duruflé, dont vous nous avez parlé, il y a quelque chose qui a été déterminant pour vous, c'est que vous avez commencé donc à travailler avec des chanteurs.
Alors, il y a eu surtout une rencontre déterminante avec un ami de mon mari, Christian Rivaldi, que vous connaissez,
qui était un grand ami,
merveilleux pianiste accompagnateur, qui était l'ami d'Edmond, qui me rencontre un jour dans la rue avec mon petit bonhomme David, qui avait à l'époque 3-4 ans. Il me dit, mais Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je fais des tas de choses, j'accompagne des chanteurs. Mais c'est pas sérieux, il faut que tu fasses la classe d'accompagnement. Il m'a pris par la main et m'a emmené voir Madame Henriette Puigroger.
Puigroger, un nom important du conservatoire de l'époque.
Magnifique professeur qui avait succédé à Nadia Boulanger. Oui. Qui, elle, a su qui j'étais. J'ai eu avec elle une relation presque affectueuse. Je l'ai beaucoup admirée. Elle m'a beaucoup appris. J'ai eu mon prix d'accompagnement. Et là, ma vie musicale a pris un sens, si je puis dire, car quand j'ai eu ce premier prix d'accompagnement, qui est un prix, ce qui veut dire qu'on est une bonne musicienne.
Oui.
Vous voyez, on peut accompagner, on peut
tout
transposer.
Lire.
J'étais pas brillantissime, mais j'avais ce que j'avais, quoi.
Et alors, on peut pas malheureusement tout raconter, mais vous avez été très marqué, notamment par la suite, par votre travail avec deux grands artistes.
Deux grands artistes, car ce prix d'accompagnement, Madame Puigroger, était comme une poule avec ses petits, elle nous plaçait. Et je me suis donc retrouvée accompagnatrice chez Jeannine Michaud et Xavier Depras. Là,
Xavier
c'était plutôt
Depras.
En stage. Et j'ai beaucoup, beaucoup
Vous pouvez nous parler un peu de Jeannine Michaud, parce que c'était la grande vedette des années 50-60 en France. Aujourd'hui, elle est peut-être un peu plus oubliée, mais qu'est-ce qu'elle représentait?
Elle représentait une chanteuse en plus. Ça n'était pas tout à fait Mado Robin, car je crois que je ne connais pas la vie de Mado
Robin. Elle pouvait aller très haut aussi.
Hein. Oui, pas aussi haut, mais elle avait surtout la curiosité aussi des compositeurs contemporains.
Ah oui,
elle a chanté beaucoup, elle a fait énormément de créations de Darius Milhaud.
Je me rappelle les opéras minutes de Milhaud, par exemple.
Exactement. Elle a chanté Germaine Taillefer. Et c'était une femme, elle était toulousaine, elle avait cette gentillesse. Attention, pas avec les sopranos, sans méchanceté,
plus le dire.
Elle aimait pas trop les sopranos. Mais elle était c'était pas une pédagogue, mais il suffisait qu'elle ouvre la bouche et qu'elle chante et qu'elle donne des exemples. Et là, le miracle s'opérait. Et au piano, moi.
Vous étiez là au piano, elle avec ses élèves.
Ah ben bien entendu. J'avais le poste modeste d'accompagnatrice, mais moins modeste aussi de chef de chant, si vous voulez. Je faisais travailler.
Vous étiez heureuse.
J'étais accompagnatrice
et
assistante. J'ai été très, très heureuse.
Oui.
Et j'ai pris le virus de la voix et du répertoire français.
Voilà,
du
qu'elle chantait
français.
En particulier. On va la retrouver tout de suite, Jeannine Michaud, dans la valse de Roméo et Juliette. Ça vous va? Parce que vous l'avez rappelé encore de ça.
Oui, qu'elle ne chantait comme personne. Et j'ai le souvenir de cette gamme descendante, chromatique, qu'elle faisait avec une sorte de sensualité. C'était magnifique.
Thank you.
Voilà, ça c'est un contre-récertifié par Isabelle Aboulker.
Ah oui, non, mais réellement, Benoît, il faut le dire, c'est absolument admirable parce que moi, pourquoi j'ai aimé les chanteurs particulièrement, c'est qu'elles n'étaient pas particulièrement cultivées, si vous voulez. Mais il y a une sorte comme ça de préscience, de génie, d'entrer exactement dans l'œuvre du compositeur. Et personne n'avait cette... moi j'adore ce répertoire. Je trouve que c'était l'époque où on respectait les livrets, on respectait les voix, on avait une passion pour l'harmonie. Il y avait toujours quelque chose de charnel qui est vraiment à quitter les compositeurs contemporains.
Il faut bien l'avouer.
La musique, c'est l'émotion. L'émotion. Et là, on entend ça, on est saisi comme devant un tableau. On parle des impressionnistes qui vous saisissent. Là, l'interprétation, j'insiste parce que il y avait une sorte de générosité, d'amour réel. Il n'y avait pas ce côté un peu condescendant.
Isabelle Aboulker, vous étiez donc pendant toutes ces années chef de chant, accompagnatrice, mais j'imagine que vous continuiez aussi à écrire de la musique.
Absolument,
pour
je faisais de la musique
plaisir.
De film, j'accompagnais des chanteuses de cabaret, voilà. Je faisais des chansons, puis j'ai fait des mélodies pour mes élèves après, quand je suis devenue, et quand j'étais assistante d'ailleurs de Janine Michaud.
Mais il s'est passé aussi quelque chose qui a été déterminant, c'est que votre mari s'est installé à Amiens, où il a été l'un des fondateurs de ce qui est devenu ensuite l'orchestre de Picardie.
Il a d'abord fondé ce qu'on appelait un ensemble à géométrie variable, qui s'appelait Pupitre 14, et qui nous a fait en effet vivre à Amiens.
On peut dire qu'a commencé vraiment votre carrière scénique.
Oui, vous avez raison, car il y avait la maison de la culture d'Amiens était dirigée par un homme de théâtre, un homme un intellectuel très fin, très 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 cultivé, qui s'est pris d'amitié pour moi, pour qui j'ai fait beaucoup de musique de scène. J'ai adoré.
Il vous a demandé des musiques de scène, vous avez commencé.
Oui, j'aime le théâtre.
Voilà, à prendre le goût du théâtre.
Je l'avais déjà.
Et c'est comme ça que finalement, à partir du début des années 80, les spectacles se sont enchaînés.
Oui, j'ai beaucoup travaillé pour la musique, pour la Maison de la Culture d'Amiens, et ça m'a amené à faire
pour toutes les formations, là, j'imagine aussi.
Oh, beaucoup. Oui. Vous savez, très souvent au piano, deux, trois instruments. Oui. Et là-dessus, mon mari est donc resté 10 ans. Nous avons élevé nos deux enfants, Michael et David, à Amiens. Ils ont été au Collège de la Providence. Comme un certain monsieur Macron. Et donc 10 ans à Amiens, j'ai adoré la Picardie, je l'aime encore. Mon fils aîné y habite. Et il vit et il enseigne, David, qui a fait l'école d'Arles, et qui est un excellent, merveilleux photographe. Et donc, l'Orchestre de Picardie a été... Enfin, la genèse de l'Orchestre de Picardie, c'est le Pupitre 14 d'Edmond Rosenfeld.
Voilà, exactement. Votre mari, Edmond Rosenfeld, qui d'ailleurs est un homme curieux de tous les arts, puisqu'aujourd'hui, il s'occupe davantage de peinture après le piano et l'orchestre.
Il est toujours fou de musique, mais... Il est galeriste.
Alors, parmi vos œuvres scéniques nombreuses, il y a donc des musiques de scène, il y a des opéras pour la jeunesse ou moins pour la jeunesse, et puis il y a aussi des oratorios.
Un oratorio qui vous est
particulièrement cher, qui s'appelle 1918.
L'homme qui titubait dans la guerre.
Ça date de 1999.
C'est une commande. C'est une commande de Louis Langrais qui avait pris.
Justement, nous sommes toujours à Amiens, que
j'ai retrouvé avec tellement de joie et directeur maintenant de l'opéra comique.
Et là, à l'époque, c'était à Amiens. On va écouter le prologue de cet homme qui titubait dans la guerre, 1918, oratorio d'Isabelle Aboulker, mon invitée.
Mademoiselle, aventure, 6 ans, leur cœur est plein d'émotions. On enlève les yeux des poupées pour réparer les aveugles. J'y vois, j'y vois, j'y vois, j'y vois.
Ceux qui faisaient les poches sont maintenant brocardiers.
Et ceux qui faisaient les morts ressuscitent.
Pour assister à la merveilleuse opération.
One, two, one, two, everything is true. On crie et on gagne, Dieu que des mieux. Et au plus fort de la mêlée, tout le monde se sauve. Pour aller manger des gaufres, two eats and pancakes. Elles sont prêtes, il est 5 heures, ni rien.
C'est l'instinct de la bête. Essis der Instinct des Tieres. Il s'éveille en nous, nous guide, nous protège. Des in uns erwacht, der uns leitet.
L'homme qui titubait dans la guerre avec le français et l'allemand, Isabelle Aboulker.
Oui, absolument. Je dois dire que notre séjour à Amiens ne pouvait pas ne pas me marquer parce que j'avais toujours été marqué par la guerre de 14, mais là, les promenades du dimanche,
évidemment,
avec des cimetières à perte de vue, et penser qu'on retrouve encore des morceaux de casque quand on se promène. Amiens est une ville martyre, et maintenant une ville merveilleuse où le bonheur de vivre est très très présent.
En tout cas, l'homme qui titubait dans la guerre, voilà, votre oratorio a été enregistré 2 fois. Là, c'était
absolument
un des enregistrements, c'était sur Jérôme Hilaire.
À la création avec Edmond Colomer, qui avait succédé à Langrée.
Voilà.
Et après, Jérôme Hilaire, qui a fait une magnifique transcription pour Pierre d'Harmonie.
Voilà. Très, très réussi. En tout cas, Isabelle Aboulker, vous émettiez tout à l'heure des positions un peu critiques sur certains aspects, peut-être de la musique contemporaine, sous l'acception du terme, en tout cas, ce qu'on désigne par là. Quand vous avez composé ce genre d'œuvre, évidemment, vous étiez quand même très, très décalé, effectivement, par rapport à
ce
monde-là. Heureusement, vous êtes arrivé un peu après la grande époque où le climat était le plus polémique, non?
Oh là là, moi, j'en ai reçu des effets. Hein, une partition programmée par France Culture, refusée par France Musique.
Ah oui, c'est arrivé.
Oui. Et des compositeurs qui refusaient de me serrer la main. Mais je vais vous
carrément.
Dire... Ah, carrément.
Parce que vous étiez une horrible tonale réactionnaire.
Un déjeuner de compositeurs, il y a une trentaine d'années,
oui, ça a
organisé
changé,
par
ça,
Claude Samuel, avec « Je ne voulais pas y aller », j'étais la seule femme, on ne connaissait pas, même pas mon visage, puisqu'il n'y avait pas Internet, et vraiment le froid que j'ai ressenti. Mais très franchement, Benoît,
mais ça, vous a jamais
ça a
gêné.
Glissé sur moi.
C'est ça qui était extraordinaire.
Et très curieusement aussi, comme j'ai beaucoup écrit pour les enfants, comme vous le savez, j'ai retrouvé, je ne citerai pas des noms, mais un compositeur pour qui je n'étais vraiment pas quelqu'un de très, qui m'a dit gentiment, vous savez Isabelle, je vis tous les matins avec Coco et les bulles de savon. Et parce que son petit bonhomme qui avait 2 ans et demi
était en train d'écouter votre musique.
Et ça, et c'est vrai que mon amie très chère était excellente compositrice, Erciane Finzi, me dit souvent, tu sais, malgré ton côté tonal, les gens ont une certaine estime pour toi.
Voilà, alors le mot tonal a été prononcé, revendiqué. Moi, je dirais plus largement, vous êtes au fond simplement dans la lignée de la musique française moderne, hein, c'est-à-dire celle de Debussy, de Ravel, de Poulenc, non ?
Je le suis, je le revendique, oui. Car ce sont des compositeurs dont je suis l'héritière. J'aime infiniment les voix, je veux que le texte passe, que la prosodie française soit respectée, et j'aime la littérature. Et j'ai en, si vous voulez, accompagné tellement souvent Épéléas et la voix humaine et les histoires naturelles que je ne peux pas ne pas m'inscrire, puisque j'aime l'harmonie et que l'harmonie est quelque chose qu'on a complètement, on a lobotomisé les compositeurs de ma génération.
C'est plus facile aujourd'hui de le dire. Et il y a une relève aussi chez les compositeurs.
Il y a une vraie relève.
Finalement, plus
mais
proche de
alors,
vous.
Là où ça s'est tari complètement, c'est dans ce qu'on appelait les variétés. C'est-à-dire que les chansons maintenant, et il y a deux jours sur France Culture, quelqu'un dont malheureusement j'ai oublié le nom, a dit exactement ce que je pense. Les chansons, c'est-à-dire ce qui faisait le terreau pour les personnes qui n'avaient pas de culture musicale, qui n'écoutaient pas Ravel, Debussy, Poulenc, mais qui avaient Gainsbourg, qui avaient Brassens, qui avaient ces chansons harmonisées de façon mais savante, si vous voulez. Ouais. Et ça leur donnait, et avec des paroles qui voulaient dire quelque chose. Et c'est ça qui me rend très triste, plus que la musique contemporaine savante, parce que qui s'adresse à des publics avertis. Ouais. Mais le public populaire n'a plus cette richesse. Vous voyez, qui faisait que la sensibilité existait.
À quoi s'ajoutaient en plus les grands arrangeurs, orchestrateurs sortis du conservatoire.
Les grands arrangeurs et les très beaux textes qui voulaient dire quelque chose.
Alors la littérature, voilà, elle est au centre de votre œuvre. On va y revenir dans un instant. Mais tiens, à propos de cette tradition française que vous aimez, j'ai choisi un petit air des dialogues des Carmélites.
Vous avez bien fait.
Chanté par Denise Duval et Xavier Depraz. Un mot de Xavier Depraz.
Xavier Depraz, un homme d'une grande générosité, d'une gentillesse, que j'ai vraiment ouvert sur le monde, puisqu'il faisait du cinéma aussi.
Il était autant comédien que chanteur.
Absolument. Hein, oui. Et il avait une voix veloutée. Un jour, je me trouve à écouter Faust, je ne sais plus, je crois que c'était à l'Opéra Comique, et il chantait, c'est pas Méphisto, si, Méphisto dans Faust, de façon admirable. Et quelqu'un, je disais à mon mari, tu sais, Xavier Depraz a laissé une trace, et quelqu'un derrière moi a dit, vous avez raison, personne ne l'a appréhendé avec tant de musicalité, comme Jeannine Michaud.
Je vois qu'il n'y a heureusement rien de grave. Parlons plus de ce petit incident.
Mon père, il n'est pas d'incident si négligeable. Où ne s'inscrit la volonté de Dieu? En état de l'inosité des yeux dans une se tourmenterait pas pour un cri. On ne quitte pas le monde par dépit.
Je ne méprise pas le monde. Le monde est seulement pour moi comme un élément où je ne saurais vivre. Oui, mon père, c'est physiquement que je n'en puis supporter le bruit, l'agitation. Qu'on épargne cette épreuve à mes nerfs et on verra ce dont je suis capable.
Voilà un extrait des dialogues des Carmélites par Xavier Depraz. Quelle voix extraordinaire.
Oui, et une œuvre vraiment magnifique.
Voilà en tout cas la façon dont on a vu vous êtes devenue vraiment compositrice, de plus en plus présente avec les spectacles qui se sont multipliés au fil du temps, avec des catégories, hein, opéra, opéra de chambre, opéra pour jeune public, chanson pour enfants, conte musical, des distinctions subtiles, Isabelle Aboulker.
Entre toujours la gens. Voix qui relie tout cela. Hein.
C'est au fond la voix qui relie tout cela. C'est aussi la source littéraire qui relie tout cela, c'est-à-dire d'un côté tout le monde des contes, notamment de Perrault, d'Andersen, etc. Et puis les écrivains. Alors, on a parlé de La Fontaine, mais on pourrait parler de Jules Renard, auquel oui. vous avez consacré
Ionesco,
tout un disque.
Ionesco, que j'ai mis en musique, parce Ionesco. Que j'aime infiniment la langue de Ionesco, toujours moderne, malgré le temps qui passe.
Jules Renard, vous avez continué ce que Ravel voilà. avait commencé, c'est ça
des
hein
petites histoires naturelles pour les enfants. Et ce sont des textes admirables. Admirable.
Vous avez également mis en musique des contes de la merveilleuse collection du Père Castor.
Ah oui, alors là, oui, grand bonheur. La oui. semaine dernière, nous avons fait un concert avec les petits de la maîtrise de Radio France. Voilà. Pour quatre contes du Père Castor, j'étais au piano avec un trac épouvantable.
Alors d'une maîtrise à l'autre, justement, donc vous allez être sur la scène, vous allez être, votre œuvre sera sur la scène de l'Opéra Comique à partir du 25 avril avec la maîtrise populaire de Sarah Connet. On va peut-être en redire un mot, mais d'abord la maîtrise de Radio France, c'est comme notre
grande maison. La maîtrise de Radio France, comme je vous l'ai dit, d'abord Tony Ramone, voilà. et puis après maintenant Sophie Janin et Marie-Noël Mertens, des femmes admirables.
C'est une maison que vous connaissez bien en fait. Vous
je connais, j'aime cette maîtrise et j'aime cette maison.
Et alors cette œuvre qu'on va écouter tout de suite, une brève pièce de 2 minutes, Mila et l'arbre bateau.
Alors ça c'est très particulier, c'est un conte qui m'a été commandé par l'Académie musicale de Villecroze, Madame Postelvinet, qui a voulu que des œuvres, enfin des ouvrages, entrent dans les maternelles et les classes primaires. Donc elle a commandé à plusieurs compositeurs, dont moi, des ouvrages, et je savais qu'il fallait faire. J'avais envie d'écrire pour les petits, mais avec un sujet quand même assez fort et adapté à eux. Et donc, j'ai pris la liberté d'écrire moi-même l'histoire.
Voilà.
J'ai pris le prénom de ma petite fille Mila, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de tendresse. Et j'ai inventé ce conte où un grand-père est mort. Voilà.
Come.
Voilà la jolie Mila et l'arbre bateau par la maîtrise de Radio France, une œuvre de mon invitée Isabelle Aboulker, dont vous allez pouvoir découvrir Archipel à l'Opéra Comique du 25 avril au 3 mai, avec une autre maîtrise, donc là c'est la maîtrise de l'Opéra Comique, la maîtrise populaire de l'Opéra Comique, avec laquelle vous êtes en plein travail, donc dernière répétition Isabelle Aboulker,
voilà,
ça se passe bien.
Voilà, dernière répétition, et je me dois absolument de rendre hommage à Adrien Born, l'auteur du livret.
Voilà, et au directeur du spectacle, le directeur musical Mathieu Romanov.
Ah, qui est vraiment, qui prend les choses tellement à cœur, qui aime les voix d'enfants. Il faut dire que cette maîtrise populaire a bénéficié et bénéficie d'un entourage humain extraordinaire, d'une gentillesse, d'une prévenance, d'un respect qui est fascinant pour cette grande maison.
Et puis pour vous quand même... Pour vous qui aimez la musique française, qui aimez tant Debussy, être à l'Opéra Comique, ça a quand même un sens, hein, j'imagine, un peu particulier.
Mais bien sûr, et adolescente et étudiante avec mon mari, mon fiancé, on disait cela avant, nous étions très très souvent dans la loge du conservatoire.
Vous écrirez peut-être un jour un opéra comique au sens plus strict du terme.
Mais là, il est opéra comique puisqu'on parle beaucoup, il y a des dialogues.
C'est
des dialogues
le principe de l'opéra comique.
Voilà, on est dans la tradition, Adrien Bonnand l'a complètement respecté.
Alors, donc on considère que c'est un opéra
comique. C'est un opéra comique.
C'est un opéra comique qu'on va découvrir à l'opéra comique et grâce à vous, Isabelle Aboulker. C'était vraiment un grand plaisir d'évoquer avec vous quelques-uns de ces souvenirs. Alors, dans cette émission, moi j'aime bien les danses, les valses, les javas, alors j'ai ressorti du Aboulker instrumental, c'est exceptionnel, mais c'est toujours dans votre oratorio ou en complément de l'oratorio de la guerre. C'est... Vous savez, la valse de l'arrière.
Ah oui, oui, oui.
Elle est jolie, non ?
Je l'aime bien.
Voilà, comme quoi vous pouvez aussi écrire pour les instruments.
Ah oui, bien sûr, quand même, il y a quelques passages dans l'archipel.
Merci, merci beaucoup Isabelle Aboulker, j'espère
à
bientôt.
Benoît.
La valse de l'arrière, c'est un extrait toujours de l'oratorio 1918, L'homme qui titubait dans la guerre, une œuvre de mon invitée Isabelle Aboulker, que vous pourrez retrouver donc du 25 avril au 3 mai à l'Opéra Comique avec la création de son œuvre Archipel. C'est la fin d'Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique José Bernès, YouTube Diego Aclopès, réalisation Jeanne Cherquefos. Et bien sûr, on se retrouve samedi prochain, mon invitée sera la comédienne Christine Murillo. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez maintenant rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.